Bonjour à tous, bonjour Boker Tov, Shavua Tov à tout le monde. Et voilà, on est dimanche et donc on est reparti. Troisième épisode. Eh bien, on avait expliqué là-bas, si je ne me trompe pas, quels étaient les différents kélim du Beth Amikdash. Quatrième épisode, on a expliqué la dimension de quand est-ce qu'on doit le construire, qui doit le construire, il va tomber du ciel, il va pas tomber du ciel, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je voudrais qu'on rentre dans, ben, petit tioul au Beth Amikdash, mais cette fois, pas Stam mercredi, mais un tioul au Beth Amikdash dans les différentes journées particulières de l'année. Car il y avait des moments extraordinaires au Beth Amikdash, tous les moments étaient extraordinaires, me direz-vous, mais il y avait des moments qui étaient absolument incroyables. Alors, nous allons commencer par ce qu'on appelle, même si on sait que d'après la halakha, évidemment que Pessah est le début de l'année, mais on va commencer par Rosh Hashanah. Rosh Hashanah au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y avait de différent à Rosh Hashanah au Beth Amikdash? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? En fait, on va se rendre compte que tout est différent. Notre judaïsme tel qu'on le connaît n'a rien. On va pas exagérer quand même juste pour le fun d'exagérer. Je ne vais pas dire que ça n'a rien de semblable avec le judaïsme du Beth Amikdash, mais il y a tellement de choses différentes. Tellement de choses différentes. Par exemple, quand on parle de Rosh Hashanah et du Beth Amikdash, alors certes, ce n'était pas tous les Rosh Hashanah, mais ça a donné le ton. Ça a donné le ton au Beth Amikdash. C'est cette image que vous pouvez voir ici. Non, c'est pas mieux. C'est que vous voyez bien les images. Attends, j'essaie de gérer la lumière. Voilà. Là, vous pouvez voir, ici, on peut voir donc cette image extraordinaire où on voit ici Ezra Sofer qui va lire la Torah au Beth Amikdash à ceux qui sont revenus de Babylone au début du Second Temple. Et Ezra qui lit la Torah au Beth Amikdash, il va la lire pendant 6 heures. 6 heures. Et tout le peuple est en train de pleurer. Tout le peuple est en train de pleurer parce que c'est la première fois qu'ils réentendent la Torah. Ils avaient complètement oublié depuis les 70 ans qu'ils ont fait en exil. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte à quel point ils transgressent tous ce qui a marqué dans cette même Torah. Bon, peut-être qu'ils ont pleuré aussi parce que Ezra, il a lu pendant 6 heures d'affilée. Hein. Moi, tu me lis 6 heures d'affilée la Torah, je pense que je pleure aussi. Hein. Bon, enfin bon. À ce moment-là, Ezra les voit pleurer et leur dit « Oh, Yom Tov, Ayom, arrêtez de pleurer, rentrez à la maison, mangez, buvez, faites-vous plaisir. C'est Yom Tov. » Effectivement, de là est restée cette dualité de Rosh Hashanah. Est-ce que c'est un Yom Sameach ou un Yom Caché? Et les Sfaradim ont pris plus le côté Yom Sameach, et les Ashkenazim ont pris plus le côté Yom Caché. Mais il faut pas oublier, il faut se rappeler que c'est les deux. Donc, il y avait cette Kriyat HaTorah au Beth Amikdash, mais le plus impressionnant à Rosh Hashanah au Beth Amikdash, c'est évidemment ce qui est aussi le plus impressionnant de nos jours, à savoir Tkiyat HaShofar. Tkiyat HaShofar de Beth Amikdash. C'est différent de notre Tkiyat HaShofar à nous dans les synagogues. D'abord, Shabbat, on sonne le shofar à Rosh Hashanah au Beth Amikdash. Non seulement on sonne le shofar à Rosh Hashanah au Beth Amikdash, mais que ce soit Shabbat ou pas, au Beth Amikdash, vous voyez qu'on ne sonne pas que du shofar. On sonne le shofar qui est accompagné de trompettes. Le Rav Kook explique la différence entre le shofar et les trompettes. Alors que le shofar est un ustensile de musique naturelle, l'homme n'a pratiquement pas touché. Il a coupé la corne et il a enlevé l'os qu'il y avait à l'intérieur. Mais le kli, l'instrument de musique, ne lui vient, c'est pas lui qui l'a fait, ça lui vient de Dieu. Alors que la trompette, c'est un instrument qui a été fait par l'homme. Le Rav Kook nous explique qu'ainsi on sonne du shofar et des chatzotzerot, des trompettes au Beth Amikdash, pour comprendre que la Teshuvah, certes, nous vient de notre lien avec HaKadosh Baruch Hu, qui vient d'en haut, qui ne dépend pas de nous, c'est lui qui est lié à nous, mais il doit aussi être accompagné par une action qui vient d'en bas, qui est symbolisée par les chatzotzerot, qui nous permettent nous également de nous élever vers HaKadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai que Rosh Hashanah au Beth Amikdash ne change pas énormément du Rosh Hashanah qu'on ne sait pas au Beth Amikdash. Par contre, s'il y a bien un truc qui change, les amis, c'est Yom Kippourim. Alors là, je me permets de le dire. Là, je vais te le dire. Yom Kippour au Beit Hamikdash, ça n'a rien à voir avec notre Yom Kippour aujourd'hui. Alors là, vraiment rien. D'abord, il faut savoir qu'à l'époque du Beit Hamikdash, il n'y en a qu'un qui bosse. Il n'y en a qu'un qui bosse dur à Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol. Am Israël, pépère à Yom Kippour. Alors oui, il ne mange pas, il ne boit pas. Mais c'est tout, quoi. Ça n'existe pas toute la journée à Sina et les philodes. Et tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors quand tu lis la Mishnah dans Maseret Yoma et que tu vois ce qui se passe à Yom Kippour, oh là là, mais c'est un monde différent, quoi. Je vais te donner d'abord un exemple. On te dit, s'il a envie d'étudier la Torah, est-ce qu'il a le droit d'aller chez son rav pendant Yom Kippour? On te dit, oui. Question, mais si jamais son rav, il habite de l'autre côté du fleuve, et que donc pour aller chez son rav étudier la Torah, il va devoir traverser le fleuve. Hein? Et on va pouvoir se mouiller pendant Kippour. Ben on te dit moutard. Mais par contre, il devra rester chez son rav jusqu'à la fin du jeûne. Par contre, s'il veut aller garder son champ des voleurs, mais son champ, il est de l'autre côté du fleuve, il a le droit et d'y aller et de revenir pendant le jeûne. C'est-à-dire, les mecs, ils sont soit en train de faire des gardes au champ, soit en train d'étudier la Torah. Ils ne sont pas à la Sina, quoi. Ni le hin et le rabbin. Parce qu'effectivement, cette notion dont on est tous en train de faire la fila, tout ça, machin, ça n'a rien à voir à l'époque du Beit Hamikdash. Au Beit Hamikdash, celui qui bosse, c'est le Kohen Gadol. Alors lui, ça fait déjà une semaine qu'il se prépare. Attention, je préfère te prévenir. Ça fait une semaine qu'il étudie avec les Chachamim du Sanhedrin pour se préparer à sa journée de Yom Kippour. Parce que là, il a du boulot. Ah, il a du boulot. Entre les différents korbanot, les cinq fois, il va rentrer en Kodesh HaKodashim. Wouh ! Ah ouais, grosse ambiance. Grosse ambiance. D'ailleurs, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de si particulier pendant cette histoire-là ? Ben d'abord, qu'est-ce qu'on fait, moi, monsieur tout le monde, je ne suis pas un Kohen, qu'est-ce que je fais à Yom Kippour? J'ai dit, je ne vais pas à la Sina. Ok, mais je fais quoi? Alors, si j'habite à Jéru, j'ai de la chance. Parce que je peux aller au Beit Hamikdash et aller voir ce qui s'y passe. Parce qu'il va s'en passer des trucs. Ambiance de folie au Beit Hamikdash. Par exemple, c'est quoi l'ambiance de folie au Beit Hamikdash que tu vas aller? C'est Am Israël, avant le lever du soleil, qui va se balader au Beit Hamikdash pour aller voir les compètes de Kohanim. Ouais, les compétitions de Kohanim, ça veut dire quoi? Eh ben oui, il y a plein de korbanot à faire. On dit à Mishnah qu'on faisait des compètes. Genre, les Kohanim, ils couraient sur la pente qui montait au Misbéar. Le premier arrivé en haut, c'est lui qui fait le korban. Genre, maman, je décompète. Les gens, ils étaient là, ils regardaient, ouais, moi, je suis pour lui. Jusqu'à ce que la Mishnah nous dit qu'il y a un Kohen qui a fait un croche-pied à un autre Kohen, et il est tombé du Kérèche et il s'est pété la jambe. Donc à ce moment-là, ils ont dit, bon, ça devient dangereux, les compètes, on va faire des tirages au sort. Mais là aussi, gros happening, tout le monde est là et on regarde les tirages au sort pour voir quel Kohen va faire le Corban. Ça, c'est la première chose qui est très sympathique. Maintenant, on va aussi venir au Beit Hamikdash pour voir d'autres choses. Par exemple, on veut tous voir si le morceau de tissu rouge va devenir blanc, montrant que Dieu nous a pardonné. Ça aussi, c'est un gros happening à ce moment-là. Mais il y en a plein d'autres, des happenings. On va se balader. Am Israël va venir au Beit Hamikdash. Regardez, je vous montre cette image. Iné. Hop là, où est-ce que c'est? Iné. On peut voir ici que dès le lever du soleil, Am Israël vient au Beit Hamikdash. On ouvre les portes pour permettre au peuple de venir voir le Seder à Avoda du Kohen Gadol. On veut voir tous les boulots que fait le Kohen Gadol. Et vous savez ce qu'on veut voir également? C'est ces changements d'habits. Ben oui, parce que le Kohen Gadol, il change tout le temps à Yom Kippour. Il passe d'habits dorés à d'habits blancs, habits dorés. Et oui, parce que rappelez-vous, hein, on avait déjà parlé. Mais lorsque le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il n'a pas d'habits dorés. Hein. Il n'a pas ses clochettes, donc ça ne fait pas gling-gling, et donc il n'est pas mort dans le Kodesh HaKodashim, et donc on ne doit pas le tirer avec une chaîne. Quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il a des habits blancs. C'est-à-dire, que ce soit bien clair. Mais qui te sort, il y a un autre moment qui est extrêmement intense. Lorsqu'on arrive au Beit Hamikdash, pendant Yom Kippourim, ça va être quoi? Ça va être ce moment-là. Tout le monde veut voir comment le Kohen Gadol va tirer au sort les deux boucs. Seir Echad l'Hashem, ve Seir Echad l'Azazel. Et une fois que le Kohen Gadol a tiré au sort, qui va être celui qui va rester ici en Corban? Et qui va être celui qui va amener, qui va être amené à Azazel? Eh bien, à ce moment-là, eh bien, tu peux choisir. Est-ce que tu restes au Beth Amikdash pour voir le Corban qui est Moukrav, la chaîne? Ou est-ce que tu décides d'accompagner le Kohen qui va amener le Seir, la Azazel? C'est long, c'est 12 kilomètres pour arriver jusqu'à l'endroit de Eretz Gezera. Et d'ailleurs, la Mishnah, regardez, je vous montre ici cette image. Voilà, vous pouvez voir ici. On voit qu'il y a des soukotes, il y a des stations de repos qui sont mises en place entre Jérusalem et l'endroit où on va balancer le Saïr à côté de Mikmash. Eh bien, il y avait des soukottes avec à boire et à manger, et le Kohen avait le droit de boire et manger, même si c'était Kippour, celui qui amenait le Seir Lazel pour avoir les forces de l'amener là-bas, 12 kilomètres à pied quand même sous le soleil, c'est pas fastoche. Mais nous dit la Gemara qu'il y a eu un miracle, que jamais un Kohen n'a eu besoin de boire ou de manger. Donc ça, c'est aussi une grosse ambiance. Tu vas voir au moment où, eh bien, bah, c'est le moment que tout le monde attend, le moment où le Kohen, il balance le Saïr, la Azazel. Et il y a des gens donc qui vont voir ça. Il y a des gens d'un autre côté qui sont restés au Beth Amikdash. Qui sont restés au Beth Amikdash et qui sont en train de faire quoi? Eh bien, qui sont en train de voir le Kohen Gadol sortir du Kodesh HaKodashim, Blipega. Et au moment où le Kohen Gadol sort du Kodesh HaKodashim et qu'on voit qu'il est sans aucun problème, eh bien, c'est Simcha Gedola. C'est Simcha Gedola. Et là, on va dire, Ufren Man Edar Aya Kohen Gadol, Betseto. Mibet Kodshe Akodashim. Rabotai, c'est de cela qu'on parle. C'est évidemment de cela qu'on parle, ce moment incroyable au Beth Amikdash. Mais vous savez, il y avait un autre moment au Beth Amikdash qui était complètement fou. Vous allez me dire, mais non, c'est pas un Kippour, c'est à Toubéav. Oui, c'est à Toubéav. Et à Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe à Mincha, à Yom Kippour, quand tu es un célibataire et que tu n'as rien d'autre à faire? Tu vas là. Tu vas là, oui mon ami, tu vas dans les champs, dans les vignes, et tu regardes quoi? Les jeunes filles à marier qui dansent. C'est pas qu'à Toubéav, c'est également à Yom HaKippourim. Grosse ambiance au Beth Amikdash et aux côtés du Beth Amikdash à Kippour. C'est-à-dire que c'est une ambiance de Simcha Gdola. Simcha, pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné. Alors le Kohen Gadol, il bosse Razak Meod. Nous, à la limite, c'est quoi? On peut même prendre un somnifère parce qu'on ne tient pas bien le jeûne et on dort pendant tout Kippour. Ça a quand même marché. Le vidouille du Kohen Gadol pour le peuple juif a quand même marché et je repars quand même naki vers Kol Beseder. Rabotai, c'est de ça qu'on parle. Yom HaKippourim au Beth Amikdash, c'était une ambiance. Et une fois que tu arrives après Yom HaKippourim, alors là mon ami, tu arrives à The Fête au Beth Amikdash. Et là, je préfère te prévenir que c'est The Fête au Beth Amikdash. Il n'y en a pas meilleur. La fête la plus ouf du Beth Amikdash, c'est Chag HaSukkot. Chag HaSukkot, déjà, c'est une ambiance dans les rues. Ben oui, c'est une ambiance dans les rues parce que tout d'un coup, tu vois que partout dans les rues de Jérusalem, tu te fais des soukottes partout. Tu fais des soukottes dans tous les sens. Tu ne peux plus marcher. Aujourd'hui, c'est sympa. Tu te balades dans les rues, tu vois des soukottes partout. Mais à l'époque, c'était vraiment partout. Puisqu'il y avait Olé à Régel et tout le monde vient à Jérusalem, la folie. Alors, ça, c'est avant déjà la fête de Sukkot. Qu'est-ce qui se passe? De la même façon que je vous ai dit qu'on sonnait le chauffard à Rosh Hashanah au Beth Amikdash, pareil, on va faire Netilat Lulav au Beth Amikdash à Sukkot, à Shabbat. Comment on faisait? Eh bien, regardez, avant Shabbat, je ne sais pas si vous voyez bien ici, avant Shabbat, eh bien, on entreposait les loulavim de chacun au Beth Amikdash pour qu'il n'y ait pas de problème de tiltoul, reshutarachid, reshutarabim, pour ne pas porter. Et donc, on préparait déjà les loulavim au Beth Amikdash. Et alors, à ce moment-là, arrive le moment où le premier jour de Sukkot commence. Et là, première grosse ambiance, les akafot. Ah bah oui, les akafot. Les akafot, mais ce n'est pas une petite akafa où tu te vas autour de ta sila. Moi, je te parle des vrais akafot, où t'as un Israël qui tourne autour du Misbeach. Beshirim verikudim. Mais c'est une ambiance. Faut te rendre compte. Qu'est-ce qu'on a plus? Alors, une fois que t'as fait ça, alors là, eh bien, toute la semaine, tu es en Simcha Gdola Meod. Mais arrive à un moment donné. Arrive à un moment donné, en fait, ça commence déjà le lendemain soir du premier jour de Sukkot. Commence le truc. Eh oui, messieurs, dames. Simchat Beit HaShoeva. Nous dit Rizrazal, Michel Laura, Simchat Beit HaShoeva. Laura, Simchat Beit HaShoeva. Je vous le remontre. On voit cette lumière incroyable, des feux étaient allumés partout. Nous dit d'ailleurs la Gemara qu'il n'y a pas une maison qui n'était pas éclairée de Jérusalem, qui n'était pas éclairée par les lumières du Beit HaMikdash de Simchat Beit HaShoeva. On allumait des menorotes partout. Ça dansait, ça chantait. Les chachamim, ils dansaient entre le chemin qu'il y avait au Shiloach où on prenait l'eau. C'est Simchat Beit HaShoeva qu'on a puisé l'eau de la source du Shiloach. Et là, je vous le montre ici. On a puisé l'eau de la source du Shiloach et on l'amène ici, de là jusqu'en haut, jusqu'au Beit HaMikdash. Et cette rue-là, d'ailleurs, qu'on a retrouvée, qui est pratiquement ouvert au public et praticable à Ir David, eh bien, dans toute cette rue-là, c'était l'ambiance. Chazal nous dit que les Chachamim, ils jouaient avec des torches en feu, qu'il n'y avait pas meilleur que Rabban Gamliel pour jouer avec des avukot shel esh. Il était un jongleur. Les Chassidim, les Anshem Ha'aseh, les Rabbanim, ils dansaient, tout ça, et tout le monde les regardait et disait, ouais. Une ambiance de malade. Michel Ora, Simchat Beit HaShoeva, Lora, Simcha Meolam. Miyamav, ça veut dire que la Simcha de Beit HaShoeva, Kaniré, qu'elle n'était pas mais à Olam Hazé. Kaniré, c'était une simcha qui allait au-delà du Olam Hazé. Yasham Tikkun Gadol, vous savez, on avait déjà parlé qu'il n'y avait pas de Mechitza au Beit HaMikdash. Ils en ont mis une en place pour Simchat Beit HaShoeva à la fin du deuxième temple, où on peut voir ici que les femmes étaient en hauteur par rapport au reste des hommes qui étaient en bas. Mais ça, c'était que à Simchat Beit HaShoeva, à la fin du deuxième temps, parce que la Shrina était un petit peu descendue, et donc le Yetzer Hara commençait à jouer des heures sup. Et puis après, tu arrives à l'avant, au dernier jour de Sukkot, au Shana Rabba, avant Shmini Atzeret, et là, il y avait un autre moment incroyable. Am Israël descendait au sud de Jérusalem, à Motsa. Dans le village de Motsa, c'est juste à côté des sources, il y en a plein, et donc il y a plein d'eau, et donc il y a plein de Haravot. Et c'est là que tu vois le Am Israël qui a avancé pour prendre les Haravot. Ce n'était pas les Haravot qu'on utilisait dans le Loulav. Enfin, effectivement, on prenait aussi de là-bas avant Sukkot pour le Loulav. Mais là, je te parle pendant Sukkot. On allait faire Minag Nevi'im. C'est quoi ce Minag Nevi'im? Je vous le montre ici. C'est ce Minag encore aujourd'hui de Chavitat à Haravot. Qu'on frappe avec les Haravot par terre. On frappe comme ça avec les Haravot par terre. C'est Minag Nevi'im. Minag Nevi'im, je tzarich la asot. Mais la shéla, c'est quel Nevi'im? Eh bien, nous dit Rabbi Ephraim, Rebbe de Rupchitz, Rebbe de Rupchitz, un des grands maîtres de la chassidoute, à Ishbitzer, nous dit la chose suivante. C'est à Ishbitzer ou à Rebbe Merupchitz? Je crois que c'est à Ishbitzer. Rabbi Ephraim Rupchitz, à Ishbitzer, il dit comme ça. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Oh là, je suis vraiment pas au point là ce soir. Non, je crois que c'est le Rabbi de Rupchitz. Je vais vérifier ça, mais à mon avis, c'est le Rabbi de Rupchitz. Il disait comme ça. Il disait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça vient? Qui nous a dit? On dit, c'est les Nevi'im. Mais quels Nevi'im? Les Nevi'im qu'il y a eu juste après Moshe. C'est ça qu'on n'a pas leur nom. C'est les Skenim que Moshe a mis en place dans le parasha de Be'alotecha, qui ont dit juste après la mort de Moshe qu'il fallait faire ça. Il dit, Lama. Il dit, parce que c'est quoi la dernière fois que tu as vu quelqu'un qui a pris un objet venant du monde végétal et frapper un caillou, la terre, enfin le rocher. Elle dit, c'est Moshé. Quand Moshé, il a frappé sur le rocher pour donner à boire au Ham Israël, je parle de la première fois, pas de la deuxième où il y a eu un problème, la première fois. Eh bien, nous dit le Rebbe de Rupchitz, c'est pour ça que nous, on fait ça. Pour dire à Moshé, maintenant, nous, on prend sur nous d'être celui qui va donner à boire au peuple juif. Tout le monde, on prend sur nous d'être responsable de pouvoir, eh bien, donner la vie au peuple d'Israël. Donc, on continue, en fait, l'action de Moshé. Et donc, ben voilà, énorme ambiance au Beit HaMikdash pendant Sukkot. Et puis, il y avait un moment donné, c'était pas tous les Sukkot, c'était les Sukkot une fois tous les 7 ans. Ou alors là, il y avait The Ambiance de The Ambiance. C'est quoi The Ambiance de The Ambiance? Eh bien, elle est là. C'est ce qu'on appelle Mahamad Akel. Mazé Mahamad Akel, je vous le remontre ici. Mahamad Akel, c'est une fois tous les 7 ans, à Melech, Koré Batorah, le roi lit la Torah, enfin lit le livre de Devarim devant tout le monde. Et tout le monde est là, je vous le remontre. Tout le monde, regarde, t'as plus de place, tellement il y a des gens. Et je peux t'assurer qu'il y avait aussi des gens dehors, puisque Mahamad Akel, tout le monde doit venir. C'est qui tout le monde? Hommes, femmes, enfants, bébés, tout le monde vient. Et à quoi ça sert, Mahamad Akel? Puisque je peux t'assurer que si tout le monde vient, s'il y a bien une chose que tu peux pas, c'est entendre. À la limite, là je te montre, mais à la limite, celui-là, hop là, calme-toi. À la limite, ce Cohen-là, les mecs qui sont au premier rang, ils entendent le roi lire. Il n'y avait pas de haut-parleur à l'époque. Donc je peux t'assurer que derrière, ça n'entend pas. Parce que tout le monde parle. Ça parle, les bébés ils pleurent, et machin, et barreau. À quoi ça sert que tout le monde vienne? Ça, on nous dit dans la Torah, les manishmeu veirao, pour qu'ils entendent et qu'ils aient la crainte. Mais j'en ai dit, ils entendent quoi? Ils entendent le bruit. Ils entendent qu'il y a tout le monde qui est là, qui sont tous venus voir que le Meller, qui est le chef, eh bien, ou kafouf la Torah, il se met au service de la Torah. Et ça, c'est fantastique. Alors, le Mahamad Akel, l'officiel, c'était une fois tous les 7 ans, après l'année de la Shemitah. Et le roi, il lisait ses fers de varim. Seulement, nous dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, qu'en fait, les 6 autres années, on faisait un espèce de genre Mahamad Akel. Où en fait, on faisait quoi? Eh bien, c'était pas le roi, c'était à Kohen Agadol, ou à Rav Agadol, ou à Afnasi Asanedrin, ou un homme Khachouv, qui venait et qui lisait pendant 6 ans, on découpait les 4 autres livres de la Torah. Je sais pas, 2/3, disons, de chaque livre, chaque année. Comme ça, pendant les 6 années, on faisait Shim, Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar. Et la 7e année, le roi venait faire Mahamad Akel. Pour qu'on termine, en fait, la Torah tout le temps. Il dit, la Brabanel, c'est ça le minhag, Beyamenu, que à Simchat Torah, le chef du Kaal se lève et va terminer la Torah. Pour se souvenir du Mahamad Akel. Simchat Torah, parce qu'avant, on ne lisait pas la Torah comme nous, on lit ou on termine la Torah tous les ans. Avant, on terminait la Torah tous les 3 ans et demi. Donc, à Sukkot, à Simchat Torah, on ne finissait pas la Torah. Et pourtant, on la finissait quand même, nous dit Abravanel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'était pas dans le système des parachutes de la semaine, on n'avait pas terminé la Torah. Aval, à Simchat Torah, on se souvenait de ce qui se passait au moment du Hakel, et donc on faisait Keilu Hakel, et on terminait la Torah avec Arish Agadol Shebakal. Donc le minhag de Simchat Torah, il nous vient directement du Beit HaMikdash, Rabotai. Alors voilà, une fois qu'on a terminé la fête de Sukkot, et ben on arrive à une autre fête au Beit HaMikdash. Bizarre ce que je vais dire. Il ne se passe rien de spécial au Beit HaMikdash à ce moment-là. Il se passe plein de trucs avant. Je parle évidemment de Pessah. Pessah, ben tout se passe soit avant, soit pas au Beit HaMikdash. C'est-à-dire, à l'époque du Beit HaMikdash, avant, t'as compris ce qui se passe. Et oui, l'après-midi avant, t'as le Ham Israël en entier qui vient en Beit HaMikdash pour quoi faire? Oui, tu le sais, pour faire Korban Pessah. Évidemment, hop, chez moi, voilà. T'as un Israël qui arrive et qui vient faire son Corban Pessah. Tout le monde vient faire son Corban Pessah. Donc, il y a une grosse, grosse effervescence. C'est pour ça qu'on a besoin de tous les Kohanim qui sont là, mais c'est pas Pessah. C'est juste avant Pessah. Et pendant Pessah, eh bien, bon, il y a le boulot au Beit HaMikdash, bien sûr. Mais ça se passe, il y a du boulot au Beit HaMikdash comme il y a du boulot tous les jours au Beit HaMikdash. Tous les Shabbats, mais ça se passe véritablement où? Bah, à la maison, le soir du Seder. Et n'oublions pas que, à la différence de ce qui se passait, enfin de ce qui se passe aujourd'hui, où tu invites un peu n'importe qui et tu t'en fiches, et d'ailleurs tu invites à la dernière minute, des fois tu invites même dans la synagogue, tu dis ah, vous n'avez pas où faire le Seder, venez. À l'époque du Beit HaMikdash, pour pouvoir manger le Korban, il faut que tu sois dans ce qu'on appelle la Chaboura, dans l'équipe. C'est-à-dire qu'au moment où le chef de famille a fait le corban l'après-midi, il devait avoir déjà sa liste de tous les gens qui allaient manger le corban. Et personne qui n'est pas dans la liste n'a le droit de venir profiter de ce corban. Donc, mamash, grosse ambiance, mais cette ambiance, et elle est tellement vraie, parce que nous, dans la Gada, on dit « Souviens-toi du Mikdash Kehilel, comment manger ?» Nous, on ne fait que du souvenir dans Pessah. À l'époque du Beit HaMikdash, Pessah, c'était véritablement... Eh bien, le moment où je m'attache à la sortie d'Égypte. Mais il est vrai que l'essentiel de ce qui se passait, de l'ambiance, elle n'était pas au Beth Amikdash. D'ailleurs, grosse ambiance aussi, le soir, le premier soir de Pessah, c'était le Hallel la nuit sur les toits de Jérusalem. Quelqu'un ? Hallel, Beleil, Pessah. Marqué dans ma série de Pessahim, à la page P, hey, qu'on disait le Hallel le soir de Pessah sur les toits de Jérusalem. Tout le monde sortait au même moment et on chantait le Hallel comme ça sur les toits de Jérusalem. Franchement, c'est une ambiance. Qu'est-ce que je te dis ? Cette année, on a fait Hallel genre sur les Mirpassot, Bezoum. Ah, tout le monde ensemble sur les toits de Jérusalem. La folie, folie, folie. Et puis après, eh ben, tu arrives à cette fête de Chag HaShavuot. Chag HaBikurim. Et c'est extraordinaire, Chag HaBikurim, Chag HaShavuot. Aval, c'est extraordinaire, mais ça ne se passe pas à Shavuot, la vérité. Là aussi, Shavuot au Beit HaMikdash, il ne se passe pas grand-chose. Chag HaBikurim, par contre, ça se passe depuis Shavuot jusqu'à Hanouka, où les gens, ils amenaient des Bikurim. Mais attention, alors tu pouvais l'amener n'importe quand, évidemment, c'est vrai, tu peux l'amener n'importe quand. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y avait des moments où les gens se rassemblaient pour amener les Bikurim ensemble au Beit HaMikdash, les premiers fruits. Et c'est vrai que ça devenait une ambiance totale, totale, à tel point que lorsque tout le monde se réunissait aux alentours de Jérusalem, eh bien la fête commençait déjà. À tel point que lorsque les gens qui amenaient les Bikurim rentraient dans la ville, eh bien, terminé. Omdim lifneem beshirim verikudim. On se lève pour accueillir tous ceux qui amènent les Bikurim. On se lève pour les accueillir. Alors que si le Kohen Gadol passe devant ton magasin, tu t'arrêtes pas de travailler. Que si le roi passe devant ton magasin, tu t'arrêtes pas de travailler. Que si le Nassi Hassanedrin passe devant ton magasin, tu t'arrêtes pas de travailler. Mais la Mishnah nous dit dans ma série de Bikurim, celui qui amène un panier avec des fruits au Beit HaMikdash, tout le monde s'arrête de travailler et danse dans lui. Parce qu'il est en train de montrer la Kedusha qu'il y a dans le quotidien. Et ça, c'est peut-être un des éléments les plus importants, eh bien, de la vie juive. Rabotai, il y avait des moments extraordinaires au Beit HaMikdash, mais il ne faudrait pas oublier un autre moment extraordinaire au Beit HaMikdash. Vous savez ce que c'est un autre moment extraordinaire au Beit HaMikdash ? Je vais vous dire. C'est tous les jours. Tous les jours au Beit HaMikdash, il y a des trucs de malades qui se passent. Par exemple, tous les matins, au Beit HaMikdash, il y avait des gens qui se réunissaient au Har HaZetim face au Beit HaMikdash et qui, lorsqu'ils voyaient le premier rayon de soleil frapper ici le Beit HaMikdash et donc commencer la journée à Netzach Hama, eh bien, tout le monde disait le schéma ensemble face au Beit HaMikdash. Et ça, c'était un marais extraordinaire de tous les jours. Oui, tous les jours. Il y avait un autre moment extraordinaire tous les jours au Beit HaMikdash. C'est quoi cet autre moment extraordinaire tous les jours au Beit HaMikdash ? Ben, je vais vous le montrer. C'est quelque chose que vous connaissez très bien. Moment extraordinaire au Beit HaMikdash, tous les jours. Birkat Kohanim Rabotai. Eze Kedusha. Eze Shefa. Les Kohanim qui viennent bénir le Ham Israël tous les jours. Et toi, tu es là et tu regardes ça. Et tu es comme un malade. Et puis, vu que tu es un homme qui a aussi une neshama extraordinaire, une neshama, j'ai envie de te dire, une neshama de musicien. Alors, toi, ce qui te le fait, comme on dit, eh bien, c'est la musique. Ah, bah, pas de problème. Tu viens au Beit HaMikdash et tu vas voir ça. Shirat Aleviim de Beit HaMikdash. Boisai, tous les jours, les Leviim qui chantent au Beit HaMikdash. Ce qu'on appelle dans la Torah, Avodat Avoda. La Avoda de la Avoda. C'est-à-dire que le Korban, il n'est pas bon s'il n'y a pas eu la chanson des Leviim qui va avec. Toute une tribu. Un douzième du peuple juif qui s'occupe de musique. T'imagines cette culture musicale incroyable? Ben voilà. Voilà. C'était un petit tioul dans les journées extraordinaires du Beit HaMikdash. Ça fait 2000 ans qu'on les a pu, ces journées-là. Yazman qu'on les retrouve. Alors, je n'ai plus qu'à nous souhaiter qu'avec l'aide de Be'ezrat Hashem, comme on dit en français, eh bien, Bechag à Rosh Hashanah, à Ba'alenu Letova, eh bien, on pourra enfin retourner au Beit HaMikdash, sonner du shofar et des chatzotzerot, et que d'ici là, eh bien, on puisse amener nos bikurim au Beit HaMikdash, beshira ou bezimra, dévoiler la kedusha qu'il y a dans chaque dimension de la création. À bientôt, les amis.